France Culture.
Et bonjour Marina, bonjour à tous. Une aide au compte-goutte des camions pillés dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne poursuit ses frappes alors que la situation humanitaire est de plus en plus critique. La perspective d'un cessez-le-feu s'éloigne en Ukraine, poussant des milliers d'habitants de l'est du pays à fuir cette semaine, aidés parfois par des héros du quotidien, portraits à suivre dans ce journal. Les taxis font monter la pression quelques heures avant leur réunion avec le gouvernement. Ils menacent de nouveaux blocages si la nouvelle convention régissant le transport de patients n'est pas renégociée. Enfin, le procès, le Skouarnek, est-il un rendez-vous manqué? Le verdict est attendu mercredi prochain. Or, les 3 mois de procès n'ont pas donné lieu à de mobilisation des pouvoirs publics ni à de débats sociétal. On en parle avec notre invitée, Solène Potvin-Favre, présidente de Face à l'inceste et co-directrice de la Civise. 83 camions d'aide humanitaire ont pu entrer dans Gaza hier, après la levée du blocus israélien lundi face à l'indignation de la communauté internationale. Denrées et médicaments ont commencé à être acheminés dans l'enclave palestinienne, mais au compte-gouttes, ne représentant qu'une pincée d'aide, alors qu'un déluge est nécessaire, a souligné hier le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, durant le cessez-le-feu. 600 camions entrés dans l'enclave chaque jour. Alors cette aide humanitaire reste dramatiquement insuffisante, Amira Swilem.
Des dizaines de camions entrent dans Gaza, suivis de scènes de chaos hier. Dans la cohue, les mains tendues et les traits tirés, des Gazaouis visiblement affamés tentent d'attraper des galettes de pain. Les organisateurs, dépassés, sont contraints de distribuer les rations à la volée. Ces images, largement relayées sur les réseaux sociaux, en disent long sur la crise humanitaire qui secoue l'enclave palestinienne. Stoppé pendant 2 mois et demi, le réapprovisionnement de Gaza reprend, en coordination avec le Programme alimentaire mondial. Face au tollé international, Israël a dû se résoudre à laisser passer quelques camions. Dès lundi, Tel Aviv prévoit de mettre en place un système alternatif de distribution, en partenariat avec les Américains et les Émiratis notamment. Ces derniers ont promis une première aide pouvant subvenir aux besoins de 15 000 personnes. Israël accuse le Hamas de détourner l'aide humanitaire fournie à Gaza et d'en tirer des revenus sans pour autant en apporter de preuves à ce stade. Externalisé à des opérateurs privés et armés, le nouveau plan prévoit l'ouverture de 4 centres de distribution dans un premier temps. Le contrôle biométrique des identités opéré, les Palestiniens pourront alors accéder à des rations alimentaires. Les plus grandes ONG humanitaires ont refusé de collaborer avec ce nouveau système, craignant qu'il ne serve en réalité d'appât pour déplacer la population palestinienne vers le sud de l'enclave, avant une possible déportation vers des pays tiers.
La correspondance d'Amira Swilem depuis Ramallah en Cisjordanie occupée et la défense civile de la bande de Gaza annonce la mort de 6 personnes dans des frappes nocturnes menées par l'armée israélienne. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées. Au moins 6 missiles et 245 drones d'attaque russes abattus la nuit dernière par les forces aériennes ukrainiennes, annonce Kiev. Des frappes au cours desquelles 6 personnes ont été blessées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame donc des sanctions internationales supplémentaires pour forcer Moscou à accepter un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu dont l'horizon semble s'éloigner. Des milliers d'Ukrainiens ont dû encore fuir leur domicile cette semaine, notamment dans la région de Soumy, dans l'est de l'Ukraine, menacée par un renforcement des troupes russes à la frontière. Ces évacuations sont parfois organisées par des héros ordinaires, comme cet homme qui a sauvé bien des vies depuis 3 ans et demi. Les envoyés spéciaux de Radio France, Agathe Mahué, Hélène Langlois et Yachar Fazilov l'ont rencontré à Irpine, dans la banlieue de Kiev.
Il a gardé sur le tableau de bord de sa camionnette rouge les peluches offertes par certains des enfants qu'il a sortis de l'enfer. Mikhailo filmant à l'époque ses trajets un peu fous avec des évacués à gare. La première fois, c'était dès 2022 à Mariupol, sa ville d'origine. Il y tenait une boîte de nuit avant la guerre. Quand les Russes sont arrivés, il est devenu taxi volontaire et a mis à l'abri des dizaines de personnes. Sa camionnette en est encore criblée de balles.
La réparer, pourquoi faire? Elle roule bien comme ça. C'est elle qui a pris pour moi. C'est un don de Dieu.
Le petit fourgon rouge est Dieu. Voilà donc ce qui l'a protégé des drones, dit-il.
Une fois, il y a eu une frappe et sous l'effet du souffle, je suis tombé. Mais quand je me suis relevé, j'avais juste perdu mes claquettes.
Une vieille paire de crocs, rouge comme sa camionnette, qu'il a ensuite emmenée partout où l'armée russe avançait. Azovstal, Kherson, Avdivka, Barkhov. Mahmoud. Son véhicule fétiche aujourd'hui est garé à Irpin, la ville martyre, devant un conteneur qui ne paye pas de mine. Mais Mihaelo a vu le potentiel. Ce sera bientôt un local social pour ceux qui évacuent encore les territoires ukrainiens menacés. Mihaelo a des problèmes cardiaques, il a déjà fait 2 infarctus, mais il répète qu'il continuera d'être aussi actif tant que son cœur tiendra.
18 personnes blessées en Allemagne après une attaque au couteau survenue hier soir à la gare d'Hambourg. 4 personnes sont toujours dans un état critique. La suspecte est une femme de 39 ans de nationalité allemande. Elle a été arrêtée peu après les faits. La police cherche dorénavant à déterminer les motifs de son geste. À une semaine du second tour de l'élection présidentielle polonaise, où le candidat libéral et pro-européen Rafał Trzaskowski affrontera le nationaliste Karol Nawrocki, et bien l'extrême droite se positionne en arbitre. Arrivé 3e lors du premier tour dimanche dernier, son candidat, Sławomir Mentzen, a recueilli la majorité des voix des jeunes électeurs polonais. Des voix aujourd'hui donc très convoitées par les 2 finalistes. Alors l'extrême droite impose son rythme et ses conditions, Adrien Sarla.
Le soir des élections, la déception n'a pas duré longtemps au QG de Konfederacja. 15,4% des voix pour Sławomir Mentzen. Pour le candidat, cette élimination dès le premier tour avait même des airs de victoire.
J'ai obtenu la 3e place. C'est le plus grand succès de notre formation politique en termes de pourcentage comme en nombre de voix.
Cumulant un total de 21% des suffrages, les électeurs de son parti Konfederacja ont le pouvoir de faire basculer le vote lors du second tour. Pourtant, le soir des résultats, leur candidat ne leur a donné aucune consigne de vote.
Les électeurs ne sont pas des sacs de patates, on ne se les transfère pas d'un candidat à l'autre comme ça. Alors, pour obtenir les voix de mes électeurs, il faut leur parler. Alors j'invite des candidats du second tour à venir discuter sur ma chaîne YouTube.
Une invitation qui s'accompagne d'une condition, s'engager à respecter 8 principes chers aux électeurs de Mentzen une fois élu. Et c'est Karol Nawrocki qui a été le premier à signer le document jeudi midi.
Je le montre à nos spectateurs. La déclaration vient d'être signée par le premier candidat. Merci beaucoup, monsieur Nawrocki. Ces points sont très importants pour mes électeurs et je suis convaincu qu'ils apprécient ce geste.
Ce soir, ce sera au tour de Rafał Trzaskowski de venir faire des promesses aux antipodes de son ADN politique. Mais il a compris qu'il lui faudrait faire le jeu de l'extrême droite pour avoir une chance de l'emporter dimanche prochain.
17h au ministère des Transports. Le rendez-vous est donné par le gouvernement aux représentants des chauffeurs de taxi mobilisés depuis lundi. Autour de la table, le Premier ministre François Bayrou et le ministre des Transports Philippe Tabarot vont tenter de répondre à la colère de la profession qui dénonce d'une part la concurrence des VTC qui continue de peser sur leurs chiffres d'affaires, mais s'insurge aussi et surtout de la nouvelle convention concernant le transport sanitaire qui doit entrer en vigueur à l'automne. Bonjour Diane Berger.
Bonjour.
Alors ce changement de tarification est censé freiner l'explosion des dépenses de l'assurance maladie, alors que les frais liés aux taxis conventionnés sont en hausse de 45% depuis 2019. Changement qui ne passe pas auprès des taxis, qui accentue donc un peu plus la pression à quelques heures de cette réunion.
Oui, un certain nombre d'entre eux ont d'ailleurs passé la nuit dernière à 2 pas du ministère des Transports, boulevard Raspail à Paris. Les taxis dénoncent notamment des incitations pour éviter les retours à vide et encourager à prendre plusieurs patients à la fois. C'est ce qui inquiète le plus cet homme rencontré par Sophie Volatier pour France Culture.
Un taxi dans le rural, il ne pourra pas faire que du transport partagé parce que il va être avec ses 300 usagers qui seront dans ces communes. Comment faire du partagé là-dessus? Et s'ils nous l'imposent, après on aura des bonus et malus. Si on n'en fait pas assez, on sera malusé. C'est-à-dire qu'on va avoir des pénalités. C'est injuste.
L'assurance maladie le promet, la nouvelle convention sera bénéfique pour 2/3 des conducteurs, ce qui ne convainc pas Emmanuelle Cordier, la présidente de la Fédération nationale des taxis, interviewée par France Info, à quelques heures du rendez-vous avec François Bayrou.
On veut déjà reprendre les choses avec eux. On veut déjà remettre tout à plat et qu'on leur explique, puisque ça fait quand même 18 mois que nous alertons qu'il y a des sous. Nous sommes prêts à faire des économies, mais pas de cette façon-là.
Vous allez durcir le mouvement ?
Tout à fait. C'est prévu comme ça, puisqu'à partir de... Alors, nous avons renouvelé les préavis de grève jusqu'au 30 pour Marseille et Paris. Et à partir de lundi, voici Charles de Gaulle et Orly vont être bloqués par les taxis. Et puis, nous allons aussi nous occuper de Roland-Garros.
Roland-Garros, le célèbre tournoi de tennis qui commence demain à Paris. L'accès au site pourrait donc bien être perturbé.
Diane Berger, les débats sur le droit à l'aide à mourir s'achèvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le vote solennel devrait avoir lieu mardi. Ce matin, les députés ont approuvé la création d'un délit d'entrave à l'accès à l'aide à mourir contre le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur ce sujet tout en renforçant la peine encourue. Démarche contre la pédocriminalité et pour la protection de l'enfance, organisée à Paris, Vannes ou encore Nice cet après-midi. À l'appel d'associations collectives féministes et organisations syndicales, à 5 jours du verdict attendu au procès de Joël Le Scouarnec, l'ancien chirurgien pédocriminel jugé devant la cour criminelle du Morbihan pour viol et agression sexuelle aggravée sur près de 300 patients, la plupart mineurs au moment des faits. Bonjour Solène Potvin-Fabre.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'association Face à l'inceste et co-présidente de la CIVISE, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Alors, loin d'être un fait divers, cette affaire, le Scouarnec, n'est que le reflet de la problématique systémique des violences sexuelles et en particulier celles faites aux enfants, écrivent les organisateurs de ces marches cet après-midi. Pourtant, ce procès, qui a débuté en février, a été présenté comme la plus grande affaire pédocriminelle en France et n'a pas donné lieu à de débats nationaux. Comment vous l'expliquez ?
Alors effectivement, on voit bien qu'il n'y a pas de prise de conscience collective, pas de prise de conscience gouvernementale, il n'y a pas de prise de position, de parole politique forte. Comment on l'explique ? Le verdict qui va être prononcé mardi ou mercredi est vraiment prévisible, mais vraiment on déplore tout ce silence. Comment est-ce qu'on l'explique ? Parce que, comme vous venez de le dire, on dit de ce procès que c'est le plus grand, ou on dit de cette personne que c'est le plus grand pédocriminel. Je crois que tous les superlatifs ont été utilisés, et pourtant, il s'agit d'un cas tout à fait banal, en fait. Un pédocriminel qui récidive tant qu'on ne l'arrête pas et qui fait des dizaines de victimes, dans le cas de Le Scouarnec, des centaines. C'est finalement assez la norme et c'est pas forcément une exception des Joël Le Scouarnec, il y en a plein dans la nature. Et la question, c'est vraiment que faisons-nous collectivement pour les arrêter ? Donc c'est cette utilisation de superlatifs qui en a rendu une exception, alors que non, c'est pas une exception, malheureusement.
Mais les victimes de Joël Le Scouarnec auraient aimé que les pouvoirs publics prennent à bras le corps le fléau des violences sexuelles faites aux enfants. Or, il n'y a pas eu d'annonce. Gouvernement et politiques sont restés très silencieux depuis le début de ce procès. Pourquoi ? C'est à cause de l'affaire Betaram qui a été largement relayée dans le même temps ?
Alors, sans doute que l'affaire Betaram, avec une dimension plus politique, a sans doute pris le devant de la scène médiatique. Maintenant, évidemment, on déplore ce silence. Alors même que le gouvernement avance à petits pas, je crois que le gouvernement est passé à côté, finalement, vraiment de ce procès. Et il aurait pu faire des annonces au sein de la CIVISE. Donc, vous savez que le rapport qui a été remis en novembre 2023 par le président de la CIVISE de l'époque, le juge Édouard Durand, comprenait 82 recommandations. Au sein de la CIVISE, nous portons ces 82 recommandations. Nous avons demandé un arbitrage urgent de la part du gouvernement sur au moins 15 recommandations. On a reçu un arbitrage favorable sur 9 parmi les 15. Donc le gouvernement aurait très bien pu s'emparer de cette réunion interministérielle et ces arbitrages positifs qu'il a apportés sur 9 des recommandations. Mais vraiment, il est passé à côté. C'est très surprenant et c'est très inquiétant.
Mais derrière ce silence, ne faut-il pas voir le tabou qui persiste sur l'inceste ? On se cache encore les yeux face à l'inceste. On ne veut pas regarder la réalité en face, à commencer par le gouvernement.
Alors évidemment, en tant que présidente de Face à l'inceste, je ne peux que aller dans votre sens. Et l'inceste, c'est l'inceste vraiment qui a fait naître ce procès avec 299 victimes pour lesquelles les faits sont actuellement jugés. Mais bien plus, il y a toutes ces victimes oubliées, toutes ces victimes pour lesquelles les faits sont prescrits. Et c'est vraiment l'inceste qui est au cœur du parcours criminel de l'accusé et qui reste dans ce procès un sujet qui est complètement murmuré au sein de l'audience, mais aussi dans le paysage politique. Pourtant, on a bien montré dans le procès le lien entre les violences sexuelles familiales initiales et les agressions que Joël Le Scouarnec a commises sur les mineurs dans le cadre de sa profession de chirurgien. Mais ce silence qui est vraiment persistant témoigne encore d'une gêne très ancrée dans la société confirme que l'inceste reste un sujet tabou pour la société et pour les pouvoirs publics, fréquemment marginalisés, même dans des affaires d'une gravité comme ça exceptionnelle. On a pu démontrer, par exemple, dans le procès, que si la belle-sœur qui a surpris des actes envers sa fille en 1983, si elle avait parlé à ce moment-là, eh bien, c'est toutes les victimes de l'ordonnance de mise en accusation qui auraient pu être épargnées. Toutes les victimes. Alors, on est en 83, on a avancé depuis, mais tellement peu, et ce procès le montre, le démontre, le silence autour de l'inceste est encore tellement assourdissant.
Merci beaucoup, Solène Potvin-Fabre, mère et présidente de l'association Face à l'inceste, coprésidente de la Civise. Merci également à Loïse Guérin pour la préparation. Un mot de météo avec de la grisaille et des ondées sur la moitié nord du pays, des éclaircies au sud. Comptez 15 à 19 degrés de la Bretagne à l'Auvergne, 20 à 26 degrés des Pays de la Loire à la Méditerranée.